Bonjour à tous, de retour sur les ondes de Radio Panique pour une nouvelle émission de Jeunes Radioactifs. Donc pour rappel, Jeunes Radioactifs est une émission par et pour les jeunes, c'est-à-dire qu'elle permet à ceux et celles qui le souhaitent de mener l'émission sur des sujets socio-culturels qui concernent la jeunesse. Alors si tu veux nous rejoindre pour être chroniqueur, mener des interviews, animer l'émission ou t'occuper de la régie, alors contacte-nous au 02 421 71 30. Ou consultez notre site internet www.inforjeune.eu. Je rappelle Inforjeune avec S. Donc aujourd'hui, notre émission de Jeunes Radioactifs aura pour thème le harcèlement des jeunes à l'école. Nous avons comme invité ici présent Monsieur Eric Bruckmann d'Inforjeune Laeken.
Bonjour à tous.
Et Monsieur Bruno Soudran, coordinateur de l'équipe mobile de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Bonjour.
Alors voilà, si vous pouviez d'abord vous introduire et expliquer votre organisation, ses missions et ce qu'elle fait exactement.
Voilà, donc je suis Bruno Soudran, je travaille au service des équipes mobiles, je suis le coordonnateur de ce service qui dépend de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui travaille pour l'ensemble de l'enseignement obligatoire en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est un service qui aide les établissements scolaires qui sont confrontés à des situations de crise, et le harcèlement en fait partie, mais aussi on travaille la question des incidents critiques, donc lorsqu'il y a par exemple un décès dans un établissement scolaire, et nous travaillons aussi les questions d'absentéisme au sein de des établissements scolaires. Voilà.
Très bien, merci pour cette introduction. Eric, peux-tu nous parler de ton organisation à HDL?
Oui, donc moi je travaille pour Inforjeune Laeken. Donc les habitués de l'émission savent ce qu'est Inforjeune Laeken, puisque Jeunes Radioactifs a déjà réalisé pas mal d'émissions et sous l'égide d'Inforjeune Laeken. Donc pour rappel simplement, c'est que Inforjeune est un centre d'information et d'accueil en matière, je dirais, générale, c'est-à-dire que aussi bien en matière de législation que de loisirs, que de vie affective et sexuelle, que d'enseignement, mais je dirais en fonction des demandes qui au fil des années nous ont été adressées, nous avons développé, je dirais, une certaine expertise, même une expertise certaine en matière d'enseignement, c'est-à-dire en matière de droit scolaire, et aussi d'orientation et d'information sur les programmes d'études et de formation. Voilà, en quelques mots, quoi.
Bien, merci. Donc avant de commencer notre débat, nous allons faire place à une petite pause musicale. Nous allons donc écouter Patrick Bruel et La Fouine avec comme titre « Mots d'enfant ».
Ok.
Ouais.
Au revoir.
Merci bien.
Lorraine.
Oui.
Qu'est-ce que
je fais ? Rien ?
Bah non, pas rien. Autant de larmes pour ta feuille, je te dis. Il y a un problème ?
Non, ça va.
Je sais pas, je me que t'es pas bien, tu vas prendre un devoir, si tu vas pas, tu peux en parler.
Non, je pense pas besoin de vous en parler, c'est pas mon père.
Non, c'est pas ton père. T'en as parlé avec ton père ?
Non, je sens plus mon père. Mais comment je peux faire ça ?
Dans le vent, mais ce ne sont que des mots d'enfant.
Et tu commandes une lettre nomination.
Non, c'est quoi?
Je pense que c'est une bouteille de lettre pure. Tu vas pas passer pour une bouffonne, c'est ça?
Pour une fille, qui leur dit non. Pour un garçon qui aime un garçon. Pour une petite phrase à la con. Parce qu'au milieu d'une cour d'école, il n'y a pas que les ballons qui volent. Il n'y a pas que des jeux de rôle. Qui est minable, qui est cadeau. Ou un bouton ou un portable, c'est trop facile de mettre à main. Lève la tête, regarde-moi, encore plus mal que toi.
Yeah, qui veille, yeah, et on n'est pas à la peine. Les voyous virtuels, les pitons crèvent-ils, seuls des aides sensuelles. Les murs n'ont plus d'oreilles, ils ont vu tout à DXL. Et on joue au jeu de tout ce qui sera le plus cruel. Les commentaires appellent au secours, parfois les mots sont des larmes. Les claviers s'attirent, les ordi sont des armes. Maman, je reste dans ma chambre, maman, j'ai pas trop faim. Maman, je sais soupir, mais c'est court comme un refrain. En compte sur le net, tu sais même plus qui tu vois. L'idée sont les messages, j'en veux carter la voix. Je t'aime par SMS, et tu me manques par email. Tu m'as fixé sur Twitter et t'as rompu par BBM. Moi, quand j'étais petit, on n'avait pas d'ordinateur. On restait jouer au foot et on parlait pendant des heures. Toi t'es seul devant l'écran. Et même les jours de fête, dis-moi avec qui tu sors. Je te dirai que tu prêtes.
Pourquoi demande-le, il ne sait pas. Il croit jouer comme les grands. À d'autres guerres, à d'autres jeux d'enfants. Lève la tête, parle. Que j'entends, change le sentiment. La haine se glisse dans les bagages. À la célèbre image.
Quand on me fait la tête, on me la tire.
C'est là où je regarde moi.
Combien se sont tués aujourd'hui?
Combien se sont tués encore?
Nous venons d'écouter Mots d'enfant de Patrick Bruel et Lafine. Alors, avant de commencer notre débat et notre définition du harcèlement, nous allons faire place à une interview d'une jeune fille qui a été victime de harcèlement.
On parle de formation d'enseignants, on parle de formation de parents. On demande aux enfants de parler, c'est-à-dire de lever la voix et d'exprimer leur harcèlement. Mais comment un enfant peut savoir qu'il est harcelé? Moi, personnellement, à l'époque, je ne le savais pas. Alors, il y a des maladies, il y a des choses comme ça, mais... ça durait 4 ans, et pendant 2 ans, j'ai passé 2 ans à me dire « Je suis quelqu'un de mauvais, je mérite ce qui m'arrive. » Mais je n'avais absolument aucune clé pour comprendre que je me faisais harceler. Donc c'était à moi de changer. Et je n'ai même pas pensé dans ma tête à appeler quelqu'un au secours. Parce que je n'étais pas en danger, dans ma tête je me mettais en danger moi-même. Si on n'aimait pas, ben c'est parce que je faisais en sorte qu'on n'aime pas. Voilà. Et là mes parents ne pouvaient rien faire contre ça. On m'a dit qu'il y a une merde pendant 4 ans. Et que ben, au bout de 4 ans j'ai abdiqué. Et j'ai fini par me dire oui je suis. C'est mon raison. Et aujourd'hui, je le pense toujours. Aujourd'hui, je n'ai pas réussi à devenir quelqu'un d'adulte. En tout cas, je n'ai pas réussi à me séparer de cette merde qui est rentrée de moi. Mais le problème aujourd'hui, c'est que on a beau savoir qu'on est une victime, on a beau savoir qu'on ne mérite pas ça. C'est une espèce de tatouage. Ça passe aussi par le pardon. Moi, contrairement à certaines personnes, je n'ai pas eu la chance d'avoir d'excuses. C'est-à-dire que j'ai quitté l'école avec des gens qui sont partis la tête haute en pensant que ce qui m'a été plus bien, je l'ai mérité.
Voilà, nous venons d'écouter le témoignage d'une jeune fille victime de harcèlement. Nous allons donc maintenant définir avec Eric Bruckmann ce qu'est le harcèlement et si vous pouviez nous donner des exemples pratiques de harcèlement.
Oui, d'accord. Une définition simple du harcèlement, c'est en fait l'exercice d'une violence psychologique et ou physique, mais de manière répétée. Donc, ce qui est important quand même de retenir dans la notion de harcèlement, c'est qu'il y a cette dimension de répétition qui doit s'exercer pour qu'on puisse parler de harcèlement. Je crois que c'est une définition très basique. On peut démarrer là-dessus. Je tiens à dire qu'au niveau d'un corps jeune, on a de temps en temps effectivement des échos ou des demandes qui nous sont faites, mais on n'est pas véritablement des spécialistes du harcèlement. Donc on a la chance aujourd'hui de recevoir Bruno, donc qui est coordinateur, comme je disais tout à l'heure, des équipes mobiles à la Fédération Wallonie-Bruxelles, et lui-même va davantage parler du terrain et des expériences. Et donc je reviendrai peut-être plus tard sur les aspects plus juridiques encore par rapport au droit scolaire et par rapport, je dirais, aux sanctions, éventuellement même pénales. Mais je crois que l'accent doit être mis sur la dimension de prévention et alors sur la dimension plus sous-vécue de l'expérience, quoi. Donc je pense que je vais passer la parole à Bruno pour cette dimension-là, quoi.
Oui, merci Eric. Et moi, ce qui me frappe dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est vraiment ce sentiment de solitude. Et c'est ce sentiment de solitude que vivent les personnes qui sont victimes de situations de harcèlement. Et c'est ça qu'il faut arriver toujours à comprendre lorsqu'il y a une situation de harcèlement. C'est qu'on a trois personnes. On a une victime, on a un auteur, ou on appelle ça parfois aussi un bourreau, et puis on a un ou plusieurs spectateurs. Et ce sont ces spectateurs qui vont renforcer cette violence que subit la victime. Ils vont renforcer cette violence parce que ils vont regarder ce qui se joue sans agir. Et d'une certaine manière, comme on dit, qui ne dit mot qu'on sent, ils vont appuyer les actes d'un auteur. Alors cet auteur, il faut toujours avoir conscience que souvent quand on intervient dans les situations harceleur-harcelé, victime-auteur, on arrive tout de suite en disant il faut protéger la victime, il faut punir l'auteur. Bon, c'est un peu plus complexe que ça, puisque dans certaines situations, c'est pas toujours facile d'identifier le harceleur et le harcelé. Il faut savoir aussi que il faut se poser la question de pourquoi on a un auteur, pourquoi cette personne harcèle une autre, pourquoi veut-elle exercer une domination sur cette personne-là devant un certain nombre de spectateurs. Et quand on commence à creuser cette question-là, on se rend compte que souvent les auteurs vivent un mal-être. Ils vivent ce mal-être et ils ont trouvé une manière négative, mais une manière de pouvoir avoir une existence, une place dans un groupe, etc. La victime aussi arrive à avoir une place dans le groupe, mais une place de victime, et du coup ressent cette solitude, et c'est ça que dans cet extrait était tellement intéressant, c'est de montrer véritablement qu'il y a une solitude, et que c'est ça qui est vécu. Alors, allons-nous encore un peu plus loin, parce que dans l'extrait, j'ai noté aussi qu'elle disait, à qui je confiais. Il doit y avoir des formations, il doit y avoir tout un tas de choses qui doivent être prévues, et on se retrouve seul quand même. Pourquoi les jeunes se retrouvent seuls? Parce que aussi la logique d'autonomisation des enfants aujourd'hui, on essaye qu'ils soient de plus en plus tôt adultes, de plus en plus tôt responsables, qu'ils gèrent de plus en plus tôt eux-mêmes leurs relations, que ce soit au sein de l'école ou dans leur vie privée. Et donc, c'est comme si, d'une certaine manière, l'adulte disparaissait du champ des possibles, du champ des acteurs qui pourraient nous apporter une aide dans cette situation. Alors, on se retrouve dans une école où il y a une situation de harcèlement, et on devrait dire, mais enfin, c'est incroyable, elle se retrouve seule alors qu'il y a quantité d'adultes autour d'elle qui pourraient intervenir. Ces adultes ne voient pas toujours tout, ou parfois le voient, mais sont dans le déni, ou parfois le voient mais ne savent pas quoi faire. Et pourquoi les jeunes aussi, et on constate souvent quand on discute avec les jeunes, pourquoi ils ne veulent pas en parler aux adultes? Parce qu'ils disent, s'ils en parlent à un adulte, ça va renforcer le problème. L'adulte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller rencontrer le harceleur, et il va lui dire, je vais te punir parce que tu harcèles ou tu violentes telle et telle personne. Et la situation va se renforcer. Parce que le harceleur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retourner ensuite, un peu plus tard, vers la victime et lui dire, tu as vu ce qui m'est arrivé, maintenant, moi, je vais te le faire payer. Et donc, on se retrouve dans une zone, entre guillemets, comme s'il y avait une zone de non-droit, comme si on était en plein milieu de la mafia, etc., etc. Et donc là, le rôle des adultes est très important. Et le rôle des adultes, c'est de rétablir un pont entre le milieu de l'enfance et le monde des adultes. Et donc voilà. Et donc là, c'est très important. Et c'est ce que essaye de faire tout un tas de services au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, que ce soit le service des équipes mobiles qui interviennent dans ce type de situation, à la demande d'un chef d'établissement, mais ça peut être aussi les services de médiation, donc des médiateurs scolaires qui sont en interne aux écoles et qui peuvent être activés par des jeunes qui pourraient eux-mêmes faire une demande pour qu'il y ait une médiation pour informer de leur situation. Enfin, il y a les champs de PNS, etc., il y a un certain nombre d'acteurs, mais il y a vraiment une volonté de pouvoir faire un lien entre les jeunes et le monde des adultes pour qu'il y ait une confiance qui s'installe.
D'accord. Merci pour tout. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter?
C'est-à-dire que moi, je voulais juste dire que ce qui m'a frappé dans le témoignage, et tu parlais, Bruno, du déni à un moment donné, c'est justement la présence du déni dans la situation, dans les situations que la demoiselle avait vécues, quoi, et dont elle témoignait. Et c'est, pour moi, c'est d'autant plus grave qu'à un moment donné, elle dit « je n'arrivais pas à nommer ou à mettre des mots sur ce que j'ai vécu ». Et moi, je relis ça directement, effectivement, à cette situation de déni, c'est-à-dire que on met le couvercle, en quelque sorte, sur le problème, on n'en parle pas, et on ne le nomme pas. Et donc, et c'est ce qui a fait, hein, je suis toujours la logique de son témoignage, c'est ce qui a fait que, finalement, elle-même attribuait la cause de son mal-être, finalement, à elle-même. C'est finalement moi-même qui n'étais pas capable de, ça venait de moi, c'était ma faute. Et donc, il lui a fallu un certain temps avant qu'elle prenne un certain recul, et comme on l'entend d'ailleurs dans le témoignage, elle n'en a pas fini parce que elle ne s'est pas encore complètement, je dirais, détachée du problème, et elle n'est pas encore parvenue finalement à rebondir totalement suite à ce problème. Comme quoi, c'est vraiment un problème qui peut marquer de façon très 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 forte l'individu qui le subit. D'où l'importance de la conscientisation, de la sensibilisation et donc de la prévention, quoi. Et la prévention, la prévention, c'est pas uniquement l'information, mais ça commence aussi avec l'information et par le fait de mettre des mots sur les situations, quoi. Voilà.
Tout ce que je veux dire. Merci. Laissons place maintenant à un second témoignage d'un jeune homme qui va nous expliquer son vécu vis-à-vis du harcèlement.
C'est un bus d'agglomération, donc il y avait très peu de personnes en fait. Et il y a des élèves qui s'amusaient à faire arrêter le bus à un arrêt dont personne ne voulait. Il y a un jour où le chauffeur a dit j'en ai marre, je redémarre un cas tant que celui qui a pas payé descend. Ensuite, ceux qui marcelaient, on dit au chauffeur, c'est lui, c'est le bègue, c'est lui, cette chose se défend. Donc là, j'ai même pas eu le temps de dire que c'était pas moi, que entre le CDR qui l'ont poussé dehors et le chauffeur très énervé qui leur prend son service, là, ils m'ont fait sortir. Donc j'ai fini à pied. Et en fait, quand j'arrive au coin de ma rue, donc il n'y avait qu'une seule voie d'accès, m'attendait au bout de la rue, donc je sais qu'il me faisait du mal, m'attendait et il me frappait. Donc, pareil qu'au collège. J'avais en retard chez moi, donc je disais que lui avait du retard, et comme ça se produisait un carnaval assez régulier, j'ai réussi à faire croire à mes parents que c'était la nouvelle horaire du bus. Quand je me suis fait harceler, mais j'ai compris que c'était par rapport au bégaiement, c'était très prononcé en 6e. Et j'ai compris que ce qu'il n'avait pas, c'était d'avoir ça, en fait. J'ai compris que je ne rentrais pas dans la norme, en fait. en fait, je me suis dit, bah, puisque j'arrive pas à parler, je veux absolument que ça s'arrête, parce que, enfin, franchement, là, je ne voulais plus. Ça me fait me voir, ça m'énervait, dans ma chambre, j'avais un truc entre les mains, si je me souvenais de ce qui se passait la nuit, mais la chose qui s'est cassée par terre, enfin, j'étais énervé. Et il y a un moment où j'ai pensé suicide. Et j'avais tout préparé. Je me rappelle, c'était un soir, j'étais. Donc j'ai laissé un petit mot, sans dire que je me faisais appeler. Donc j'ai vraiment hésité à le mettre. Et je me suis dit, bah non, parce que bah, je ne veux pas que mes parents se sentent coupables. Et donc je suis monté sur une chaise. Donc j'ai mis la corde autour du cou. Et ça s'est arrêté. Enfin, j'ai arrêté. Enfin, je me suis rendu compte et que enfin, j'ai eu une sorte d'électrochoc en me disant maman, ça ne peut pas le faire, quand ma mère m'a appelé. Voilà. Quand on les écoute, pour eux, c'est un jeu en fait. C'est un jeu, c'est pour rigoler. Et j'aimerais que les personnes, enfin les agresseurs, se rendent compte, enfin, écoutent tous les témoignages, écoutent mon témoignage, et je pourrais se rendre compte que c'est un jeu pour eux, mais c'est pas un jeu pour moi. Enfin, ça n'a pas été un jeu pour moi, ça n'a pas été un jeu.
Voilà, nous venons d'écouter un témoignage d'un jeune garçon qui a vécu un harcèlement. Et je vais me tourner vers M. Soudran. Vous avez parlé tout à l'heure qu'il y avait un schéma de style mafia concernant la loi du silence pendant les harcèlements. Est-ce que vous pourriez un peu plus développer et donner des éventuels cas concrets, s'il vous plaît?
Oui, ce que vient encore dire ce jeune homme, c'est véritablement la solitude. Une solitude telle qu'elle le pousse à faire une tentative de suicide, d'imaginer que la seule solution possible, c'est de se donner la mort. Et généralement, quand on en arrive là, c'est que on ne voit plus d'autres solutions et qu'on n'a plus de solutions qui nous permettent de nous rattacher aux autres. Et donc cette solitude-là, elle est véritablement très forte dans les situations de harcèlement. Et pourquoi elle est très forte? Parce qu'elle est renforcée, comme je le disais tout à l'heure, par le fait qu'il y ait des spectateurs d'un côté qui regardent la situation faire et qui ne réagissent pas, mais aussi parce qu'aujourd'hui, au niveau de la jeunesse, il y a deux éléments. D'un côté, une forte autonomisation qui fait qu'on doit régler ses problèmes soi-même. Je me rappelle d'une jeune fille dans l'enseignement primaire qui disait par rapport à ces situations de violence, de harcèlement, elle devait les gérer elle-même. Parce que c'était ça d'être adulte. Alors quand on a une petite fille de 10 ans qui dit, ben voilà, s'il m'arrive quelque chose, je la gérerai moi-même, parce que c'est ça être adulte, on se dit, ben oui, mais peut-être que si tu n'arrives pas à gérer cette situation, il y aura des adultes eux-mêmes qui seront à même de pouvoir, parce qu'ils ont une autorité dans l'institution scolaire, pouvoir agir. Et donc c'est véritablement ça aussi qui fait que ça renforce cette autonomisation très forte. De l'autre côté, le fait que les ados aujourd'hui ont un énorme besoin d'avoir un réseau d'amis, d'appartenir à un groupe. C'est le phénomène qu'on voit à travers Facebook, etc. Donc il faut avoir une identité, appartenir à un groupe, etc. Et donc le fait d'avoir peur d'avoir perdu les autres renforce ce sentiment de solitude. On n'appartient plus à un groupe, on est isolé. Vient s'ajouter à ça le fait que parfois dans les écoles, je l'ai dit tout à l'heure, à quel adulte pouvoir se confier? Et donc dans le cas de ces situations-là, il faut pouvoir identifier ces trois choses-là, le fait qu'il est nécessaire d'avoir des adultes, il est nécessaire de faire un travail avec l'auteur, et de savoir qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il cherche, où est son mal-être pour qu'il pousse une autre personne à être plus mal, et qu'est-ce qu'on fait avec la victime qui doit être aidée aussi. Et donc voilà, c'est ces trois choses-là qu'il est important à chaque fois avoir en tête pour les interventions.
Moi, ce que je voulais peut-être rajouter, c'est que il existe aussi, de ce que j'ai pu observer et entendre, c'est que justement pour permettre d'aller dans le sens de trouver des ressources au sein des établissements, il existe certains établissements, mais là évidemment je pense que c'est laissé complètement à l'initiative des écoles elles-mêmes, qui ont mis en place des coordinateurs ou des coordinatrices, c'est-à-dire des enseignants eux-mêmes qui occupent ce rôle-là à l'intérieur de l'école et qui à ce moment-là gère les choses en mettant par exemple en place à certains moments des groupes de parole. Des groupes de parole où on va gérer, disons, l'affectif au sein d'un groupe classe. Hein. Donc, parfois c'est possible, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est applicable comme ça partout, mais en tout cas, je sais que je n'ai pas les noms comme ça en tête des écoles, mais je sais que ce type d'expérience existe. Alors, autre chose aussi, c'est, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on est dans un système scolaire qui est, dont finalement les valeurs profondes sur lesquelles il repose sont celles de la compétition, de la compétition donc de type individuel. Et on pense un peu trop souvent que le seul enjeu de l'école, c'est la transmission des savoirs. Or, il y a effectivement un autre enjeu qui est au moins aussi important que la transmission des savoirs, c'est un apprentissage du vivre ensemble, ou en tout cas un apprentissage social. Si c'est celui d'un individualisme total, comme c'est souvent le cas malheureusement, ben effectivement les gens auront plus tendance à se retrouver isolés et à subir parfois certains des phénomènes de bande. Alors que si effectivement on met en place des projets, parce que ça peut être une piste de solution aussi, et moi là j'ai eu écho de choses qui s'étaient faites peut-être en Belgique aussi, mais en tout cas je pense plus directement à des lycées ou des collèges français, où il y a eu des actions donc du type plus collectif à l'intérieur des classes, avec le groupe classe, où il s'agissait par exemple de mettre en œuvre un projet de réalisation d'un film, d'un court-métrage. Il y a eu plusieurs écoles en France qui ont fait ça. Donc réaliser une capsule vidéo ou un court-métrage qui mobilisait le groupe classe à la fois dans la conception du film, dans l'implication, dans l'interprétation et peut-être aussi dans l'accompagnement du montage, etc. Et qu'est-ce qu'il faisait dans la réalisation de cette vidéo ? Ben, en fait, il traitait le sujet. Il traitait le sujet du harcèlement. Et donc, le fait qu'il y ait un groupe classe qui traite ce sujet-là, ben, déjà, ça met en place un lien à l'intérieur de la classe elle-même. Ça a tendance à déplacer, je dirais, l'individualisme pour aller vers plus un lien de type solidaire, avec effectivement une prise en charge et une prise de conscience du problème du harcèlement. Donc, ça a quand même des chances de générer des effets préventifs auprès des groupes qui mettent ce genre de choses en place. Évidemment, le but n'est pas non plus que tout le monde se mette à faire des films là-dessus, mais c'est un exemple, quoi. Donc, c'est un exemple qui permet, par exemple, d'affronter ce type de problème et d'essayer de dégager des pistes de solutions, quoi, en matière de prévention du harcèlement, quoi.
D'accord, mais généralement on a plus à faire dans les écoles à des sanctions de type renvoi et limite renvoi de l'école. Est-ce que vous pensez que c'est une solution
Mais donc, je pense qu'effectivement la prévention est importante évidemment dans ce domaine-là, ce qui ne veut pas dire qu'il faut évidemment abolir toute sanction. Et effectivement, à partir du moment où tout ça se déroule dans le lieu de l'école ou en dehors de l'école, mais que c'est lié d'une manière ou d'une autre à l'école, le droit scolaire doit s'appliquer en premier. Or, que dit le droit scolaire, si on en revient là d'une manière un peu plus technique, je dirais, au décret qui sous-tend l'enseignement obligatoire, ben, on a notamment un texte de base qui s'appelle le décret Michon, bon, qui est le décret du 24 juillet 1997 et qui est toujours le texte de base pour tout ce qui concerne la structure et l'organisation de l'enseignement et aussi donc de tout ce qui est, je dirais, comportement, discipline. Et dans l'article 81 et 89 du décret Michon, on parle justement des cas où le renvoi scolaire peut être décidé. Et qu'est-ce qu'il dit ? Ben, je ne reprends pas mot à mot ce qui est dit. Hein. Mais donc, en fait, on dit qu'à partir du moment où un élève s'est rendu responsable d'actes de violence à l'encontre d'un autre membre de la communauté scolaire, hein, violence qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychologique, hein, ou violence morale, effective, eh bien, une procédure de renvoi scolaire peut être envisagée. Donc, effectivement, je sais bien que le renvoi lui-même en soi, moi, enfin, un forgeron, on n'est pas, je veux dire, partisan de manier l'arme du renvoi scolaire, bien au contraire, comme étant une solution.
Ben, il faut savoir qu'à partir du moment où une violence a été attestée, et donc de manière répétée dans le cas du harcèlement, bon, ben, ça peut être effectivement, ça peut faire l'objet en tout cas d'un renvoi scolaire. Ça peut tomber sous le coup des dispositions de l'article 81 et 89 du décret mission. Donc évidemment, il y a toute une procédure pour ceux qui font l'objet de cette menace de renvoi. Hein. Je ne vais pas la détailler ici parce que c'est pas vraiment le sujet de l'émission. Mais donc là, effectivement, il existe au sein de l'arsenal législatif, donc du droit scolaire, ces possibilités-là. Hein, maintenant, il est clair aussi que le renvoi scolaire, si ça se limite à ça, ne traite pas le problème du tout sur le fond, hein, puisque bon, ça veut dire que l'élève va devoir chercher une école ailleurs, hein, on est censé l'aider à trouver une école ailleurs. Maintenant, effectivement, il faut voir aussi, ce qui arrive malgré tout un peu trop souvent, est-ce qu'on ne transfère pas le problème qui a été vécu, enfin qui a motivé l'élève dans son comportement d'agresseur ou de harceleur, est-ce qu'il ne va pas le transférer purement et simplement dans la nouvelle école où il va aller? Donc tout ça, ce sont des questions effectivement qui se posent, et c'est sûr que l'exclusion en tant que telle et à elle seule ne résout pas le problème sur le fond. D'autant plus que... par rapport à la sanction, ben, je pense que pour qu'une sanction soit aussi, je dirais, valable, elle doit garder un caractère pédagogique, mais elle doit aussi garder un caractère pédagogique vis-à-vis de la victime. Donc, à partir de quel moment est-ce que le fait que la personne soit renvoyée peut redonner, je dirais, un sentiment à la personne qui a été agressée, donc à la victime, un sentiment que justice est faite quelque part, quoi. C'est pas évident. Maintenant, à côté des sanctions en termes de droit scolaire, il y a évidemment, ça, je vais pas les développer, il y a les sanctions, je dirais, et les procédures plus judiciaires. Encore faut-il, bon, préciser que quand les auteurs sont des mineurs eux-mêmes, c'est pour autant qu'il y ait eu plainte. Il ne faut pas perdre de vue qu'un mineur lui-même qui est agresseur, hein, ou qui est effectivement responsable d'actes délictueux, est considéré aux yeux de la législation comme étant lui-même un mineur en danger. Donc, en fait, ce seront les mesures qui vont s'appliquer au cas où, effectivement, le juge de la jeunesse est saisi de l'affaire. Ce sont quand même des mesures elles-mêmes qui doivent garder un caractère pédagogique aussi. Et ce serait éventuellement des mesures réparatrices ou des mesures genre, par exemple, des travaux d'intérêt généraux, quoi. Ça peut être intéressant, mais est-ce que, par rapport à la personne qui a vécu le préjudice, est-ce que ça donne une réelle réparation, quoi? Donc tout ça, c'est des questions qui restent très ouvertes. Donc la sanction, effectivement, je pense que la sanction doit être appliquée dans certains cas, mais il faut aussi que ce soit des sanctions positives, c'est-à-dire qu'il y ait véritablement réparation, et réparation aussi aux yeux de celui qui a vécu le préjudice. Ben voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est vrai que ça ouvre tout un champ quand même de discussion vraiment important qu'on n'a pas évidemment l'occasion de pouvoir traiter à fond ici dans le cadre de cette émission. Voilà.
Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, nécessairement?
Je dirais que dans le cadre du travail qui est mené aujourd'hui en Fédération Wallonie Bruxelles, il y a plusieurs choses au niveau de la prévention, et effectivement, ce que disait Eric tout à l'heure, il y a des groupes de parole qui se mettent en place au niveau notamment de l'enseignement primaire, donc quand il y a des interventions des équipes mobiles, il y a ce travail de remettre du collectif. Parce que voilà, je disais tout à l'heure, on autonomise très fort, et puis on oublie qu'en fait, ben voilà, il faut du collectif pour pouvoir se construire. Et le fait d'avoir un espace qui permet aux enfants de pouvoir discuter, de pouvoir partager leurs émotions, leurs constats, etc., permet de prévenir un certain nombre de choses par rapport au harcèlement. Parce que là, il y a un lieu qui est partagé par tout le monde, accepté, dirigé par un adulte qui est un enseignant, qui permet de recevoir les choses qui se passent bien, mais aussi les choses qui se passent mal, et qui permet d'en discuter. Donc ça permet de véritablement désamorcer certaines situations. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment la partie prévention. La deuxième prévention, c'est évidemment tout ce qui est lié au règlement d'ordre intérieur et qui est lié aux sanctions et qui fait qu'aussi on rappelle à un moment qu'on est dans une institution. Et dans le cadre d'une institution, il y a toujours des normes et des règles. C'est le propre d'une institution et c'est ça qui permet qu'elle puisse continuer. Et donc, le fait d'avoir ces normes et ces règles, ça permet d'avoir des filets de sécurité à un moment aussi par rapport à un jeune qui se sentirait victime et de savoir qu'il va y avoir quelque chose qui va être pris. Une décision va être prise par rapport à une situation. Alors maintenant, et je vais dans le sens que d'Eric par rapport à ça, c'est-à-dire effectivement, en fonction de la gravité des faits, le renvoi est une des solutions, mais est-ce que cette solution va apporter à la fois réparation à la victime et en même temps va apporter une compréhension à l'auteur? Comme disait Eric tout à l'heure, si c'est pour qu'un jeune soit renvoyé puis apporte son problème dans une autre école et recommence, on n'aura pas fait avancer les choses et on est quand même dans le champ de l'éducation. Et la même chose, un jeune homme ou une jeune fille qui se sent victime de harcèlement, mais d'abord s'il se passe rien, elle ne se sent pas reconnue dans son état. Et maintenant, s'il se passe quelque chose, il faut pouvoir accueillir ça. Et quel est le travail qu'on va faire pour que cette personne aussi puisse dépasser cette situation et vivre cette situation en pouvant accepter un certain nombre de choses, comme le fait qu'on n'a pas toujours les outils en soi pour pouvoir gérer un problème. Il faut pouvoir parfois faire appel à l'autre, l'adulte, les autres, etc., etc. Et donc, la prévention se joue à plusieurs niveaux, à la fois recréer du collectif, avoir une institution qui fonctionne et qui est claire au niveau de son règlement, ses règles et ses normes. Et puis après, il y a, parce que la prévention c'est bien, mais ça ne marche pas toujours, il y a qu'est-ce qu'on fait quand il y a une situation de harcèlement dans l'école. Et là, il faut la gérer le plus rapidement possible en pouvant écouter à la fois la victime et pouvoir faire un travail de harceleur à ce moment-là. Et ça permettra peut-être d'éviter qu'une victime se sente renforcé dans son mal-être et qu'un auteur puisse continuer et de pouvoir faire un travail avec lui.
Très bien, merci. Nous pouvons passer à la troisième pause musicale. Nous allons donc écouter King V avec comme titre Petite Emily.
Qu'elle est devenue à présent. Au lieu de ce collège, ça a changé. Mon élève ne faisait que de se moquer. Partout elle se sentait rejetée. Tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se demandait comment faire face. Elle était devenue le jour-douleur de la crème. Sur les réseaux sociaux, il appelait la dégueulasse. Des gros modèles sur les montants de mort qui les passent. Ça ne va pas, comment faire. Comment réagir à cet enfer. Par honte et ne voulant pas appeler sa mère. Mais un soir de décembre, petit et mille évents, ça faisait s'éluder. Nos camarades, tous ensemble, mais on serait dans du mire pour la toucher. C'en était trop pour elle, pour qu'elle puisse encore supporter. Alors elle est sans discipline, mais qu'on en veut faire la paix.
Nous venons d'écouter Kinvey avec comme extrait Petite Emily. Donc voilà, on a parlé, Monsieur Soudran a parlé un petit peu des réseaux sociaux tout à l'heure en disant que la victime avait un besoin d'appartenir à un groupe. Alors vous, quel est votre avis concernant le phénomène des réseaux sociaux et quelle place il prend dans le harcèlement actuellement?
La problématique liée aux réseaux sociaux, il faut l'avoir comme sous deux angles aujourd'hui. D'abord, les réseaux sociaux font partie du paysage de la communication actuelle et donc il faut apprendre à pouvoir les gérer. Et c'est ce qu'apprennent et tentent d'apprendre ces jeunes, mais de nouveau par eux-mêmes. Et donc, ces réseaux sociaux sont souvent la chambre d'écho d'une problématique qui se passe par ailleurs. Donc il y a une situation de harcèlement qui se déroule, on va dire, dans la réalité, au sein d'une cour de récréation, ou dans un club de sport, etc., sur les réseaux sociaux, ça peut se retrouver, et se retrouver d'autant plus fort, peut-être parce que chacun est derrière son ordinateur, et on n'a pas l'impression qu'on va toucher l'autre. On oublie qu'il y a quelqu'un derrière qui lit. Et donc on envoie un commentaire, peut-être agressif, violent, etc., et on oublie qu'il y a quelqu'un qui va le recevoir. On espère peut-être que la personne va le recevoir, mais en même temps, on ne voit pas l'émotion se régénérer chez cette personne-là. Et donc, cette distance créée par le virtuel va aussi renforcer ça. La deuxième chose, les jeunes se retrouvent sur les réseaux sociaux dans une bulle générationnelle, comme on dit. Ben, ils se retrouvent dans les réseaux sociaux entre eux. Il y a rarement papa et maman qui est là, où ils ont parfois même plusieurs comptes. Aussi, chez Facebook, par exemple, ben, on abandonne Facebook parce que les vieux sont aussi sur Facebook, ils pourraient voir ce qu'on fait. Et donc, on va aller sur d'autres réseaux sociaux et donc on se retrouve encore plus entre nous et donc ce sentiment de solitude qu'on parlait plusieurs jeunes se trouve d'autant plus renforcé parce que à qui aller parler? À qui aller confier ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux? À nos parents, mais enfin ils peuvent pas comprendre, etc., etc. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que il y a une importance d'avoir une place dans les réseaux sociaux. Et donc, il faut savoir que beaucoup de jeunes aujourd'hui se créent une identité par rapport à ces questions-là. Le réseau social ne reflète pas qui on est. Et les jeunes, ça, ils le savent très bien. Donc, on va essayer de créer une identité. Je me rappelle d'un exemple d'une jeune fille qui adorait le Seigneur des Anneaux, qui aimait beaucoup tout ce qui était lié à l'informatique, etc. Et mettait pas ça sur son profil Facebook. Et quand on lui demandait, pourquoi tu mets pas ça sur ton profil Facebook? Parce que je suis fait trop geek. Ça fait trop garçon, etc. Donc moi, je vais plutôt mettre autre chose, je vais plutôt mettre en avant autre chose. Et donc, il y a vraiment une idée de gérer une identité virtuelle et de pouvoir la gérer et pouvoir la maîtriser. Et donc, le harcèlement vient renforcer le fait qu'on n'arrive pas à la maîtriser et c'est d'autant plus dur à vivre aussi, puisqu'il y a quelque chose qui est pris et qui est pris par les autres et qu'on n'arrive plus à pouvoir tenir. On se sent véritablement victime.
Oui, Eric, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, mais simplement que, dans la foulée de ce qui vient d'être dit, moi, le problème aussi avec les réseaux sociaux et avec Internet, c'est que finalement, la frontière entre la vie privée et la vie publique, disons, a éclaté. Pour le meilleur comme pour le pire. Hein, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme disait Bruno, effectivement, c'est la chambre d'écho ou le prolongement de quelque chose qui a déjà été amorcé ailleurs. Mais donc, comme cette frontière entre public et privé a éclaté, une fois qu'on est, je dirais, dans un processus de harcèlement, ça n'a plus de fin, quoi, je veux dire. Puisque avec les réseaux sociaux, même si on a fermé la porte chez soi, ben, on peut continuer à être harcelé via le réseau, via l'internet et via l'ordinateur et le smartphone sur lequel on est branché, quoi. Donc ça amplifie, ça démultiplie encore le phénomène, et c'est ce qui fait qu'on arrive aussi, enfin c'est pas la cause ni la raison, mais je veux dire, je crois que ça participe du phénomène. C'est ce qui fait qu'on entend beaucoup parler effectivement de jeunes qui ont voulu se donner la mort ou qui se sont suicidés suite à un harcèlement sur les réseaux sociaux. D'autant plus que effectivement, aujourd'hui, par exemple, tout le monde connaît bien Facebook. Les adultes connaissent bien Facebook, mais par exemple, ils connaissent mal des réseaux que les jeunes utilisent beaucoup. Je pense à Snapchat ou à Ask.fm, des choses comme ça. Et où effectivement, là aussi, il y a des choses qui se passent, et les adultes eux-mêmes ne connaissent pas du tout ces réseaux-là. Bon, tout le monde connaît Facebook, c'est le plus connu, mais il y a d'autres réseaux. Donc tout ça est devenu assez complexe. Et effectivement, je crois que avec la question de la popularité, enfin entre guillemets, la popularité dont on a un peu parlé tout à l'heure. C'est vrai que bon, on est aussi dans une société, je dirais, du narcissisme, quoi. Hein, donc c'est pas forcément négatif, mais enfin, je veux dire, il peut y avoir une espèce d'hyper narcissisme qui est facilement à portée de main avec les réseaux sociaux. Dans le dur, avec un réseau social, on a son petit public à soi, hein, on a ses followers, on a ses amis, hein, et donc finalement, on a un peu ce que Warhol disait, son quart d'heure de célébrité à soi. Et ça, bon, ça peut être très fun, très amusant, mais ça peut aussi être dramatique à certains moments, quoi, parce que effectivement, une fois qu'on devient la cible de une ou plusieurs personnes, ben ça s'arrête plus, quoi. Hein, c'est un flux qui s'arrête plus. Maintenant, il existe des réseaux. Bon, on pense très bien que, par exemple, sur Facebook, je ne sais pas comment ça se passe vraiment sur s'il y a des procédures en place sur les autres, c'est bien. Je ne sais pas comment Facebook évalue ça, ou s'il l'a mis simplement pour faire politiquement correct, mais je veux dire, il existe maintenant une procédure mise en place par Facebook dans les cas de harcèlement où on peut signaler, etc. Ben, est-ce que ça donne vraiment quelque chose? Je ne sais pas. Bon, j'espère qu'effectivement que ça peut déboucher sur une solution. Mais voilà, ça ne suffit pas. Et bah oui, c'est vrai, les réseaux sociaux eux-mêmes participent du phénomène. Et alors, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est, on en a parlé tout à l'heure, quand on met des photos de soi, il faut faire très attention, même si on les met en mode confidentiel ou en mode privé, parce que il faut retenir quand même que dès qu'on met quelque chose sur l'internet, enfin sur un réseau, peu importe lequel, c'est plus rattrapable quelque part, quoi. C'est-à-dire que la chose qu'on a mise sur le web, qu'on a mise sur les réseaux, elle va vivre sa vie. Voilà. Et on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc, il vaut mieux réfléchir à deux fois avant de poster des photos de soi sur le web et sur les réseaux, quoi.
Ouais. Bien. Monsieur Soudan, vous avez quelque chose à rajouter?
Mais effectivement, il y a une grande difficulté aujourd'hui. Parce que à la fois les réseaux sociaux sont incontournables, on les retrouve partout, que ce soit dans le monde de l'entreprise, donc il y a vraiment une importance à avoir, et les jeunes aujourd'hui, ben, ils font une découverte souvent très rapidement, c'est que ils doivent se construire une identité, mais que c'est pas facile, et que tous les ados ont eu ce problème-là un jour, qu'ils devaient appartenir à un groupe et qu'ils devaient pouvoir s'affirmer hors de l'influence de ses parents, etc., etc., donc s'autonomiser. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux viennent rajouter une couche supplémentaire par rapport à ça, parce que, comme le disait Eric, avoir un profil et faire un profil public dans lequel on parle de son privé, on oublie parfois que on ne mélange pas tout. Et que souvent cet apprentissage qu'on ne mélange pas tout se fait, un petit peu contre, on en devient victime, pour le dire autrement. Et donc du coup on se rend compte qu'on n'aurait pas dû poster cette photo où on était plus ou moins dénudé. On n'aurait pas dû poster cette photo où on était à une soirée et qu'on avait la tête dans les toilettes, comme on l'a déjà vu dans certaines situations, parce que elle prend une autre vie, elle est tournée en dérision, elle se retrouve sur d'autres sites, etc., etc. Et là, on découvre que, effectivement, on découvre un petit peu de manière pas très gaie, mais que gérer les réseaux sociaux, c'est une autre manière que de gérer le monde dans lequel on peut avoir une prise, par exemple.
Merci. Laissons place maintenant à une autre pause musicale. Nous allons écouter Intimidation d'Ornella Tempesta. c'était Intimidation d'Ornella Tempesta. Donc notre émission touche malheureusement à sa fin. Je vais demander à nos invités de rappeler leurs coordonnées afin que les auditeurs qui se retrouvent dans la situation de harcèlement sachent à qui s'adresser. Monsieur Soudran.
Oui, donc vous pouvez, si vous êtes parent ou un élève, vous pouvez téléphoner au numéro vert de la Fédération Alénie Bruxelles, le numéro École et Parents, c'est le 0800 95 580, et si vous êtes un chef d'établissement ou un PO, et donc vous pouvez faire appel aux équipes mobiles en envoyant un mail à équipe mobile en un mot au singulier @cfwb.be.
Merci. Eric?
Oui, ben voilà, pour contacter InfoJeune Laken, c'est très simple. Vous faites www.InfoJeune avec S à la fin, .eu. Voilà, et donc vous trouverez là toutes nos coordonnées, le téléphone, l'adresse, et vous pouvez nous envoyer via le site directement une question ou un message. Voilà.
Eh bien, si, avant de clôturer notre émission, je tiens à remercier Radio Panique pour le studio, Sylvain la régie, Eric et M. Soudran de l'équipe mobile. Je vous dis à la prochaine fois pour ma part, et la prochaine émission sera sur l'estime de soi. Et donc, si toi aussi comme auditeur, tu veux souhaites rejoindre notre équipe de jeunes radioactifs, contacte-nous au 02 421 71 30. À bientôt, au revoir.
J'apprends ici que la vie ne sera pas facile chez les gens. Je serai trop différent pour leur vie si tranquille pour ces gens. I want to see you.
l'école, j'allais en marteau. Peu de chance de s'en sortir, tirant mon marteau. Déjà occupé, je travaillais devant les costauds. Et dans pas les crabes, les couchants feront des tourteaux. Signe de petit à l'école, j'allais en marteau. Peu de chance de s'en sortir, tirant mon marteau. Je serre à la chute, attention, passage à niveau. C'est chaud quand tu vois papa, frappe au niveau. Les feuilles mortes sont tombées, couleur offre orange. Absorbé par cette image, le petit marche dans les peaux d'orange. Cagoule gondole, sous la pluie toute trempée. Dans sa poche débile, quelques cuillers écrasés. Dans ma ras-le-bol de ras-le-bol, il est frigorifié. L'odeur humide des feuilles mortes qui lui chatouille le nez. Il est tout petit, pourtant le style a fait son entrée. Sombre après-midi et dans sa tête tout est embrouillé. Je sais pas si maman c'est à 4h ou à 5h30. Je sais pas pourquoi la dame est méchante à la garderie. Il emporte avec lui quelques bonbecs et des chocorelles. Les porches des arbres trop dures pour faire couler la chaîne. J'ai mis des petits à l'école, j'allais en marteau. Peu de chance de s'en sortir, j'ai dans mon marteau. Déjà en CP, j'écrasais devant les costauds. Et dans ce panier de crabe, les plus forts feront des tourteaux. J'ai mis des petits à l'école, j'allais en marteau. Peu de chance de s'en sortir, j'ai dans mon marteau. Je serai à la chute, attention, passage à niveau. C'est chaud quand il voit papa, frappe au niveau. Le ciel s'obscurcit, il frotte dans un pépiteau. Il fait presque nuit, une lumière bloque dans le fléau. Ça souffle. Alors il prend mi-tout, j'ai quand même vu le vent qui siffle. Les poings serrés dans ses moufles, il morfle. Pense un peu à Goldorak, des miettes de pain au chocolat durci dans son anorak, qui veut s'échapper. Voudrait que maman vienne le chercher. Il chasse l'entrée, priant qu'elle n'ait pas oublié. Dans la cour, ses crades, odeurs d'orange et de pourriture. Les feuilles mortes, glissantes, gluantes sous ses chaussures. Les cris des autres l'agressent, serre les dents et schnobe les costauds. Il est 7h30, toujours personne dans le préau. Je suis des petits à l'école, j'allais en marteau. Peu de chance de s'en sortir, j'ai dans mon marteau. Déjà en CP, il s'écrasait devant les costauds. Et dans ce panier de crades, les plus forts feront des tourteaux. J'ai mis des petits à l'école, j'allais en marteau. Peu de chance de s'en sortir, j'ai dans mon marteau. Je serai à la suite, attention, passage à niveau. C'est chaud quand tu vois que papa frappe pas au niveau. Il a triste nom dans toutes les boules à la cantine. Les autres petits font des batailles avec des clémentines. Le chef de table, c'est un grand blond qui l'embête. Celui qui dans les arbres lui avait caché sa casquette. Il s'acharne sur le petit qui lui a jamais rien fait. À la récré, c'est moque sous les mal à balle aux prisonniers. C'est la tête de tue, le corps qu'on court dans le parc. Avec un cul trop grand qui a tellement peur des clowns au cirque. Qu'à l'école, pour lui c'est l'humiliation. En sixième se crase au rôle et commence la sélection. Il perd encore les dents mais tiendra pas dans cette violence. Son petit cœur était pur mais maintenant il crie vengeance.